affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie sociale bien particulière, la noblesse, dans la France de la fin du Moyen-Âge. Au XIVe et XVe siècle, elle représente une partie très minoritaire de la population, environ 2% selon les estimations, et contrairement aux idées reçues, il s'agit d'un corps en perpétuel renouvellement. Qui sont ces hommes et ces femmes? Comment sont-ils devenus nobles? Comment peuvent-ils aussi perdre ce statut? Quelles sont leurs valeurs, leurs privilèges, leurs stratégies d'adaptation dans un monde en évolution? Voilà les questions que nous allons poser au médiéviste Philippe Contamine, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il vient de consacrer un livre à ce sujet qui rassemble de nombreux articles écrits au fil du temps, « Nobles et noblesse en France, 1300-1500 » aux éditions du CNRS. Bonjour Philippe Contamine.
Bonjour.
Alors pour commencer, la noblesse représente une catégorie sociale à part. Elle est finalement, quand on la considère de plus près, assez hétérogène et pourtant, toutes les personnes qui en font partie ont une conscience de classe, si on peut déjà s'exprimer ainsi, assez forte.
Oui, alors effectivement, on peut même dire que au fur et à mesure qu'on s'avance dans le Moyen-Âge, les contours de la noblesse sont devenus de plus en plus définis. Et à mon avis, il y a deux éléments qui ont joué en faveur de cette unité de la noblesse à travers le royaume de France, quelles que soient les provinces. Et cette unité, on la trouve aussi bien en 1300 qu'en 1500, peut-être même en plus en 1500 qu'en 1300. C'est d'une part le partage noble, à savoir que, alors que les roturiers partagent leur héritage de façon assez égalitaire, entre les enfants, notamment les enfants mâles, c'est moins net peut-être pour les filles, puisque les filles, on se contente souvent de les doter, les coutumes des nobles, parce qu'il y a beaucoup de coutumes de nobles selon les régions, privilégient en général, presque toujours, le fils aîné. Donc il y a là une caractéristique très, 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 très remarquable. Et somme toute, ce privilège accordé au fils aîné n'a pas été ou très peu contesté par les puînés. Il devait être mécontent, je n'en sais rien, etc. Mais il y a très peu de procès, de procédures contestant ce privilège accordé au fils aîné. Alors ce privilège peut quelquefois représenter, disons, la moitié de l'héritage, quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus. Donc ça, c'est une première catégorie en droit privé. Et alors il y a des nuances, parce qu'il y a toutes sortes de coutumes, et en particulier, il y a les coutumes du Nord, et puis le droit écrit, qui, dans le Sud, accordait plus de liberté aux testateurs. Mais ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément, c'est le fait que à partir de Philippe le Bel, disons, il y a un nouveau type de fiscalité qui se met en place, une fiscalité qu'on peut appeler une fiscalité d'État, essentiellement pour financer les guerres, qui prennent de plus en plus d'importance, accaparent de plus en plus de moyens, de troupes, etc. Et donc pour cette fiscalité, eh bien Philippe le Bel a mis en place des impositions. Et ces impositions, il a été convenu, avec là encore des discussions, etc., c'était pas indiqué au départ, que les nobles en étaient exempts. Ils en étaient exempts parce que on considérait que pesaient sur eux, des obligations militaires, la semence des nobles, que les rois de France et même au niveau local, au niveau régional, les princes, n'ont cessé de multiplier au XIVe, au XVe siècle. Nous sommes à l'époque de la guerre de Cent Ans. Donc, dans une, le système était le suivant, à savoir que, je simplifie, les agents du roi disaient, eh bien, telle paroisse doit 20 livres, 20 livres, 30 livres, 20 livres, 30 livres. Et puis à vous de vous débrouiller pour que ces 20 livres arrivent dans les caisses du roi, et la répartition, ça ne me concerne pas directement. Par conséquent, il y avait au niveau des paroisses, aussi bien urbaines que rurales, une sorte d'assemblée des notables, et puis tant bien que mal, on taxait les uns et les autres de façon à aboutir à cette somme de 20 livres ou de 30 livres. Et les nobles disaient, mais nous ne sommes pas dans le coup. Nous ne sommes pas dans le coup, voyez-vous. Donc chaque année, chaque fois qu'il y avait une taille, chaque fois qu'il y avait une imposition, en général c'était annuel, eh bien on savait à l'intérieur d'une paroisse déterminée qui était noble, qui n'était pas. Et là, il y a quand même beaucoup de contestations, parce que les nobles, donc, ils avaient des obligations, il fallait qu'ils suivent les armes, comme on disait, il y a l'armée, etc. Et il fallait également qu'ils ne participent pas à certaines activités économiques considérées comme dégradantes, le commerce, etc. Bon, et donc, du même coup, il y avait une contestation de la part des autres contribuables qui disaient, mais non, celui-là il n'est pas noble, puisqu'il ne se rend pas à la semonce du roi, et d'autre part, il a une activité qui est une activité qui n'est pas compatible avec le statut de noble. C'est si bien que j'aboutis à cela, c'est chaque année, dans une communauté donnée, on savait, même s'il y avait des contestations, qui était noble, qui ne l'était pas.
Et justement, qui sont les nobles? Comment le devient-on? Comment les reconnaît-on?
Alors, comment le reconnaît-on, etc. Bon, il y a somme toute, ce statut hein, qui est reconnu par la communauté, de manière générale. Et puis, en gros, disons, le principe de la noblesse, c'est que c'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est une classe qui, normalement, se transmet par le sang. Hein. La qualité de noble se transmet par le sang. Bon, alors, il y a des systèmes plus ou moins rigides. Et en France, le système est relativement souple, car il est entendu qu'il suffit d'avoir un père noble pour être noble, à condition d'être né en légitime mariage. Alors, il valait mieux que la mère soit aussi noble, c'était plus sûr, mais ça n'était pas une obligation. Alors qu'il y a d'autres systèmes nobiliaires à travers la chrétienté ou l'Europe médiévale, par exemple en Allemagne, où il est nécessaire qu'on ait à la fois noble par son ex utroque parenté, comme on disait, c'est-à-dire par le père et par la mère. Alors donc, il y avait un problème qui se posait, à savoir, et les bâtards, parce que normalement, on était nobles si on était né dans un légitime mariage. Alors,
et pourtant, au 14e, 15e siècle,
au 14e, 15e siècle, finalement, un bâtard dont le père est noble, et assez facilement, on a des exemples illustres, le bâtard d'Orléans, etc. Mais ce n'est pas le seul. Donc là, mais le système est devenu plus rigide par la suite. Mais au XIVe, XVe siècle, ne serait-ce que pour combler les vides, eh bien, on acceptait assez volontiers qu'un bâtard soit reconnu comme noble, à condition qu'il remplisse les obligations des nobles, notamment les obligations militaires, hein, ça c'est quand même relativement important, et à condition également qu'il puisse maintenir, comme on disait, son état, c'est-à-dire qu'il ait suffisamment de ressources pour ne pas faire honte à sa condition.
Ça c'est une notion extrêmement importante, il faut savoir tenir son rang.
Tenir son rang, tout à fait. Il fallait tenir son rang. Donc, il y avait des nobles pauvres, même misérables, etc. Mais ce n'était quand même pas la norme. Normalement, les sources le rappellent, etc. Eh bien, si on ne peut pas tenir son rang, tant pis, on quitte la noblesse et on rejoint l'immense foule des non-nobles. Il y a les nobles et les non-nobles. Alors, les non-nobles, c'est un groupe, l'expression est d'époque, si vous voulez. Les non-nobles, c'est un groupe qui regroupe tout le monde. tous ceux qui ne sont pas. Donc, il y a une sorte de répartition de la société étrange. Il y a les nobles d'un côté et d'autre, et il y a les non-nobles.
Alors, en vous entendant, on comprend que ce statut peut se perdre. Et vous parliez également des vides, des trous qui pouvaient se constituer. En réalité, cette catégorie sociale a perdu des effectifs au fil du temps. Il a fallu la renouveler.
Eh bien, voilà, tout à fait. Donc, c'est assez difficile à repérer. Les gens, à l'époque même, en avaient conscience. On pouvait s'agréger à la noblesse, on y reviendra peut-être, mais également en sortir. Et puis, des études généalogiques extrêmement précises, en particulier celle de mon maître Édouard Perrois pour le Forez, montrent que, finalement, il y avait un renouvellement assez fort, hein. De génération en génération. Et moi, je n'ai pas fait ces études aussi précises, parce que, si vous voulez, il aurait fallu se concentrer sur une région, sur un comté, etc. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis servi d'analyses comme celle d'Édouard Perrois. Mais c'est le sentiment également que j'ai. Quand on regarde, disons, la noblesse au 14e, ça n'est pas la noblesse au 15e. On a l'impression d'un renouvellement assez massif. Alors, ce renouvellement, comment s'explique-t-il? Eh bien, il s'explique, disons, par l'extinction biologique. Enfin, ça atteint à peu près toutes les catégories, et tu l'as fait entendu. Et puis, également, le fait que les nobles, justement parce qu'ils participent à la guerre, risquent davantage leur vie que les non-nobles. Et il y a eu, au 14e, au 15e siècle, là encore, dans le cas de la guerre de Cent Ans, Azincourt en particulier, mais ce n'est pas un cas unique, il y a eu du véritable hécatombe. On a l'impression, quand les contemporains disent la chevalerie française a complètement disparu. C'est probablement exagéré, comme toujours, mais c'était un caractère spécifique. Alors il y a cette extinction qu'on peut dire biologique. Alors évidemment, on arrivait quand même à avoir des biais, et en particulier les veuves étaient priées de se remarier. Mais les nobles qui se battent sont jeunes, en âge de procréer, etc. Donc s'ils disparaissent, eh bien, il y a quand même beaucoup de risques. Et puis alors, ensuite, le deuxième élément, c'est les bouleversements socio-économiques du 14e et 15e siècle. Si vous voulez, moi j'ai été élevé comme ça, disons, les annales, économie, société, civilisation. Donc la base économique des choses, pour moi, ça compte énormément, n'est-ce pas? De nos jours, on parle beaucoup du culturel, c'est pas moi qui va mépriser le culturel, mais la base économique est très considérable. Or, sur la longue durée, on peut dire que de 1340 à 1460, il y a eu non seulement un tassement, non seulement un effritement, un recul, mais parfois même un effondrement de ce qu'on appelle la rente foncière. Or, les nobles vivent en grande partie de la rente foncière, c'est-à-dire du produit des seigneuries rurales qu'ils possèdent. Et on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu les comptes, etc., parce qu'il y a des séries de comptes qui ont subsisté, on s'aperçoit que ça n'est pas un mythe, que c'est une réalité. Et donc, par conséquent, il y a eu une évaporation de la classe nobiliaire pour des raisons économiques. Il fallait bien survivre, et ces gens, finalement, se sont débrouillés, mais en même temps qu'ils avaient une activité qui n'était pas conforme à leur statut, eh bien, ils avaient du mal à rester dans leur milieu. Ils pouvaient quelquefois le retrouver, ça existait en Bretagne, etc. etc. Enfin, donc il y a, disons, le renouvellement s'explique par la biologie, et le renouvellement s'explique également par ce qu'on peut appeler l'économico-social. Mais finalement, donc normalement, on aurait pu imaginer, s'il y a toute cette extinction, que le nombre de nobles a diminué entre 1300 et 1500, je pense qu'il s'est quand même tassé. Je pense, pour toutes différentes raisons, il s'est quand même tassé. Mais ils ont quand même subsisté, hein, ils sont un petit peu moins nombreux vers 1500 qu'en 1300. En particulier, il y a beaucoup moins de chevaliers. Bon, mais enfin, il y a des nobles hommes, il y a des écuyers, etc. etc. Et donc, ça signifie que s'il n'y a pas eu d'extinction, il y a eu un apport, un afflux. Par conséquent, il y a un certain nombre de gens qui, d'une façon ou d'une autre, souhaitaient acquérir ce statut parce que c'était le miroir aux Alouettes, etc. C'était le prestige social et tout, plus les avantages que je viens d'expliquer, en particulier les avantages fiscaux. Et du même coup, à la fois à la campagne et à les villes, on voit un processus d'annoblissement, annoblissement cautionné par l'État, des lettres d'annoblissement que les rois de France ont accordées. Il n'y en a pas tellement, du reste, parce que normalement, ces lettres d'annoblissement étaient enregistrées à la Chambre des comptes et à la chancellerie. On a conservé des registres entiers, etc. Ça fait pas beaucoup de gens. Donc, on pense que, quand même, les annoblissements se font par la bande et en particulier par par l'acquisition des fiefs nobles. Autrement dit, il y avait un marché de la seigneurie, on pouvait acheter un fief, hein, surtout un fief petit ou moyen, etc. Une grande principauté, c'était plus difficile. Bon, mais ce n'est pas tout à fait exclu. Et donc, par conséquent, ceux qui en avaient les moyens, le goût, etc., à condition qu'ils acceptent, encore une fois, les devoirs, les obligations des nobles, eh bien, ils pouvaient acheter une seigneurie, souvent près de la ville, etc., des bourgeois, etc., donc une campagne, si vous voulez. Et donc, au bout de 3 générations, il y avait, pour ainsi dire, prescription, et on admettait, l'un dans l'autre, qu'ils... soit reconnu comme faisant partie du peuple des nobles. Voilà.
Il faut donc savoir compter sur le temps et la longue
exactement.
Durée.
Exactement. La noblesse, vous savez, la formule d'Aristote, la noblesse, ce sont de vieilles richesses. Bon, eh bien, il y a un petit peu de ça. La noblesse, ils avaient trouvé ça dans la politique d'Aristote et des gens du Moyen-Âge qui avaient redécouvert Aristote au XIIIe siècle, je simplifie, qui ensuite l'ont traduit en français, la politique d'Aristote, l'éthique, l'économie d'Aristote, ils avaient repéré cette formule, la noblesse, ce sont des vieilles richesses. Bon, et donc c'était assez bien vu, hein. Aristote, c'est quand même pas n'importe qui. Ils ont appliqué ce jugement d'Aristote à une autre société, qui était la société chrétienne du XIVe et du XVe siècle.
Alors nous allons peut-être nous arrêter sur une question de vocabulaire. Vous avez parlé des chevaliers qui deviennent de moins en moins nombreux. Qu'est-ce que c'est exactement un chevalier et peut-être aussi un gentilhomme?
Alors donc le vocabulaire, puisque nous parlons de vocabulaire, on rentre un petit peu en arrière. À savoir, j'ai un petit peu hésité pour savoir est-ce que j'aurais pu appeler ce livre aristocratie. Mais le terme aristocratie n'est pas inconnu, là encore, il est tiré d'Aristote. Mais si vous voulez, je trouve que le terme de noble, c'est une qualité. Hein. Noble, c'est pas simplement, une catégorie, mais c'est une qualité. Un noble comportement, un noble édifice, un noble cheval, etc. etc. Donc ça tire, pour ainsi dire, cette catégorie vers le haut. Hein, c'est pas une qualité négative. Et je crois qu'effectivement, c'est pour ça que le terme de noble a été préféré au terme de gentilhomme, bon, qui met peut-être trop l'accent sur la succession biologique. Gentilhomme, c'est être né d'un père noble. Tandis que noble, eh bien, c'était quand même avoir sa propre qualité et devoir s'y tenir, n'est-ce pas? Donc il y avait cet aspect, c'est la noblesse, c'est la vertu qui anoblit. C'est la vertu qui anoblit, si vous voulez. Donc les nobles, naturellement, sont loin d'avoir suivi ce précepte, parce que l'histoire réelle des nobles est quand même assez loin des fantasmes dont ils pouvaient se nourrir. Donc il y a la formule d'Aristote que j'ai évoquée, et puis il y a la formule de Juvénal, c'est la vertu qui anoblit. Donc cette formule de Juvénal, dans une des satires de Juvénal, elle est répétée à satiété, à l'envi, par les sources médiévales. Voilà. Alors voilà, les nobles. C'est pour ça que j'ai préféré le terme de noble au terme de gentilhomme et le terme de noblesse au terme d'aristocratie. On peut se dire. Et alors j'ai hésité également, après tout, pourquoi pas les élites. On parle énormément aujourd'hui des élites, des élites, des élites. Bon, et je crois qu'effectivement, les nobles, plus ou moins, se considéraient comme une élite. Je ne sais pas s'ils étaient uniformément réputés une élite, mais je crois que quand même, compte tenu de ce qu'ils étaient concrètement, beaucoup de nobles, il est difficile de dire que c'était vraiment des élites, sinon des élites tout à fait locales, au niveau de leur petite seigneurie, etc. Donc, effectivement, dans leur paroisse, eh bien, le seigneur, même s'il avait peu de revenus, peu de prestige, etc., il y avait le bon seigneurial, il y avait la litre où figuraient ses armes, les armes de ses ancêtres, etc. Donc, on pouvait éventuellement l'encenser avant les autres. Donc, c'était, après tout, on peut dire qu'un noble, c'est une élite, même au niveau local. Mais je crois surtout que la société du XIVe, XVe siècle, qui est une société tripartite avec les trois ordres, le clergé, la noblesse, ce qu'on appelle, à partir, disons, de la seconde moitié du XVe siècle, le tiers-État, eh bien, c'est une société plus complexe que ne disent ces textes théoriques. Et donc, il y a plusieurs types de noblesse, d'élite, et donc, par conséquent, notamment les élites cléricales, et puis les élites bourgeoises, et puis les élites administratives, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait figurer le terme d'élite, donc j'ai écarté aristocratie, j'ai écarté élite, et j'ai écarté gentilhomme, même si c'est un terme assez fréquent, et j'ai préféré envoyer le terme de noblesse. Alors, effectivement, revenons à ces catégories. Et donc, il y a, pour ainsi dire, un mythe unificateur qui est censé réunir à l'intérieur de ça, le nombre de valeurs ou de comportements, l'ensemble de la noblesse, c'est le mythe de la chevalerie. Alors, ce mythe de la chevalerie, il est très ancien. Certains de mes collègues feront monter ça à l'Antiquité germanique, je n'en sais rien, etc. Mais en tout cas, ça apparaît en pleine lumière à partir, disons, de l'an 1000, du XIe siècle. La croisade a fait beaucoup également pour cela. Éloge de la nouvelle chevalerie. Il y a ce célèbre traité de Saint-Bernard. Et le mythe de la chevalerie, ça, on y insiste de plus en plus maintenant, il a perduré à travers les siècles. Et on
bien
le voit
plus longtemps qu'on le croyait.
Bien plus longtemps qu'on ne le croyait. La chevalerie, ce n'est pas simplement le XIIe siècle, ni le XIIIe, mais au XIVe ou XVe siècle. Froissart, c'est vraiment le chroniqueur de la chevalerie. Et on s'aperçoit de nos jours que même à l'époque, la première moitié du XVIe siècle, la chevalerie demeure quelque chose de prétendument vivant, donc un certain nombre de valeurs, disons, de l'apparence est une affaire entendue, mais également quelques obligations morales, et en particulier protéger les veuves, les orphelins, l'Église, etc. Et surtout si c'est dans le même milieu, hein, voilà, il y a une sorte de moyen. Voilà, il faut protéger plutôt les nobles demoiselles, les nobles dames que le commun.
C'est un que petit la paysanne.
Peu comme ça. Donc c'est un petit peu des valeurs, une éthique un petit peu exclusiviste, il faut bien le reconnaître. Mais ça existe toujours, il y a toute une littérature, etc. Et on met l'accent là-dessus de nos jours, de plus en plus. Ça ne s'arrête pas, disons, avec la guerre de Cent Ans, ça se prolonge encore. Une, deux, trois, quatre générations, moyennant un certain nombre de mutations, si vous voulez. Alors, mais le fait est quand même, ça c'est un autre élément que j'ai, je crois, bien mis en valeur, que la chevalerie, c'est-à-dire le rite de l'adoubement, l'entrée en chevalerie, devenir chevalier nouveau, c'est plus fréquent au XIVe qu'au XVe siècle. On a l'impression qu'au XVe siècle, on passe de moins en moins par ce rite, si vous voulez, par ce rite d'initiation, pour ainsi dire. C'est assez curieux, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais le fait est qu'il y a moins de gens qui s'intitulent chevaliers en 1500 qu'en 1300. Et c'est un phénomène qu'on rencontre, la même évolution se rencontre du reste dans l'Angleterre voisine.
Il reste néanmoins certains attributs du chevalier, à commencer par le cheval.
Le cheval, qui dit cheval, dit chevalier, effectivement.
Nobilière.
Qui dit cheval, dit chevalier, tout à fait. Et donc, le propre des nobles, c'était d'attacher une extrême importance à l'art équestre. L'art équestre qui est l'art équestre pour se déplacer, pour chasser, hein, chasser à court, c'est pas commode, etc. Chasser au vol, c'est déjà plus calme, mais également pour la guerre, puisque finalement, les chevaliers sont priés, les gens de guerre, les hommes d'armes, comme on disait, les gendarmes, comme on disait, du XIVe et XVe siècle, sont priés de se battre à cheval, avec l'épée, avec la masse d'armes, avec la lance, etc. La lance couchée, c'est pas commode du tout, j'imagine. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y a des gens qui l'ont pratiqué. C'est vraiment lourd. Il faut mettre ça sous les selles, etc., etc. Il faut pointer et tout. Bon, et tenir son cheval d'une seule main, pour ainsi dire. Et puis ça, et même quand, pour des raisons tactiques, etc., on se bat à pied, parce qu'on a compris quand même que le cheval était vulnérable aux flèches anglaises, on a commencé à le comprendre après Crécy, eh bien, il faut que le cheval soit quand même à la disposition. Et donc, un cheval, si vous voulez, c'est beaucoup plus qu'un cheval. C'est-à-dire, c'est premièrement cheval d'armes. Il faut qu'il court vite, il faut qu'il soit endurant, bondissant, il faut qu'il soit obéissant, parce qu'il y a le fracas de la bataille, il faut qu'un cheval, qui est un animal nerveux, etc., eh bien, garde son sang-froid, il faut arriver à le tenir, etc. Et puis ensuite, eh bien, l'homme d'armes n'est pas seul, il a besoin au moins de deux valets d'armes, si vous voulez, par conséquent, c'est une petite unité de 3, 4, 5 chevaux, hein, n'est-ce pas? Donc il y a un cheval de prix qui est réservé au maître, et puis il y a un sommier, et puis un cheval pour le valet d'armes, etc., pour le gros valet, comme on disait, etc. Donc, après tout, il y a également au XIXe siècle, il y a les hussards, il y a les cuirassiers, etc., il y a les dragons même, les dragons qui sont une infanterie montée. Mais après tout, on ne dit pas que les cuirassiers du XIXe siècle, etc., soient des nobles, hein, mais parce que leurs chevaux, leur équipement est offert par l'État. Tandis qu'au Moyen-Âge, depuis très longtemps, eh bien, à la fois l'armure, le haume, la lance, l'épée, la dague, que sais-je, etc., plus les montures qui peuvent être des montures de prix qu'on va chercher très loin parce qu'il s'agit de prendre les meilleures bêtes jusqu'en Pouille, jusqu'en Espagne, et même au-delà, en Orient, que sais-je, et puis dans le Nord, et puis dans le Sud, que sais-je. Bon, eh bien, c'est normalement, même si il y a des, même si les princes sont priés quand même d'aider un petit peu, eh bien, normalement, c'est le noble qui doit se payer lui-même sa monture. C'est comme si, au XXe siècle, eh bien, un officier de char se payait son char. Hein, bon, n'est-ce pas? Bon, c'est pas du tout différent. Alors, par conséquent, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'il est, pour ainsi dire, autonome. Et il met cette petite unité au service de la royauté, au service des princes. Bon, voilà. Alors ça vaut bien quand même quelques privilèges, tout ça, hein, parce que la rentabilité est faible. Alors après tout, on aurait pu imaginer que ce privilège fiscal n'existe pas, puisque en principe, les nobles sont de plus en plus payés pendant les campagnes. Bon, donc après, pourquoi est-ce qu'ils auraient ce double privilège de ne pas payer d'impôts et puis en même temps être payés pendant les campagnes? Mais en fait, si vous voulez, la solde, les gages versés par le roi arrivent tardivement, incomplètement et probablement ne couvrent pas les frais. Par conséquent, les gens de l'époque se rendaient compte que faire sérieusement la guerre au service du prince est une mauvaise opération économique. Et c'est pour ça que le corps social a accepté, même s'il y a quelques protestations, etc., la franchise fiscale, le privilège fiscal de la noblesse.
Quelle est la place des femmes dans ce monde-là ?
À la place des femmes, eh bien, les femmes, c'est pas un principe d'égalité, etc. Mais il faut d'abord songer que les pouvoirs sont héréditaires. Par conséquent, si, par conséquent, si une, comment dirais-je, un noble disparaît. Il n'a pas de fils, mais il a des filles. Hein? Eh bien, c'est la fille qui hérite de façon privilégiée. Donc, évidemment, s'il y a des fils, ils sont mis en avant, mais il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête de seigneuries, petites, moyennes, grandes, etc., jusqu'à des pairesses, pairs de France. Il y a des pairesses de France, Mao d'Artois, etc. Ce n'est pas un cas tout à fait unique. Donc, ils ont quand même ce statut qui, somme toute, a disparu avec la Révolution. Si bien qu'en un sens, le Code civil, le Code Napoléon, marque le recul de l'autonomie financière des femmes à cause justement du fait que la féodalité a disparu. Donc il y a des femmes qui ont des seigneuries en propre. Bon, ça n'existe bien. Et puis ensuite, il est prévu que une femme au moment de son mariage reçoit une dot, hein, qui appartient au mari. C'est une affaire entendue. Et c'est au mari de la gérer, etc. Bon, il la gère bien ou mal. Et puis, reçoit également un douaire, c'est ça la théorie en tout cas, à savoir que si elle devient veuve, eh bien, il est prévu que le revenu du douaire lui permette de vivre. Disons, elle reçoit c'est un tiers par rapport, un tiers en gros, un tiers par rapport aux ressources qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle n'était pas veuve. Donc il y a ce statut qui est bien défini. Et puis mon idée, par différents, disons, approches, c'est que les nobles dames du XIVe, du XVe siècle ont quand même une certaine autonomie dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que dans ce recueil, il y a un article qui s'appelle « Dames à cheval », où j'essaie de montrer la façon dont les dames se déplaçaient, différents moyens. Alors, évidemment, il y avait quelquefois... elles montaient en croupe. C'est pas très crotte, un petit peu comme les femmes à bord de moto, hein, si vous voulez. Il est rare de voir une femme qui conduit une moto et puis l'homme à l'arrière. Bon, c'est un peu la même chose au Moyen-Âge. Donc, il y a monté en croupe. Il y avait également surtout des demoiselles, etc. On les mettait dans des chariots qui n'étaient pas du tout agréables. On les entassait là, etc., dans les entrées royales. On voit des représentations et tout. Mais il y avait également des dames qui montaient à cheval en Amazon, comme on aurait dit au XIXe siècle, mais le terme à l'époque est différent. Et par conséquent, tant bien que mal, hein, il y avait des accidents de chasse qui sont assez rares, tant bien que mal, eh bien, elles arrivaient à participer à la chasse au faucon, hein, à l'oiseau de proie. On les voit quelquefois avec la main dressée, puis un cheval, un oiseau de proie sur le poing, etc. Et même quelquefois participer à la chasse à courre, qui est quand même un peu plus dangereux. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette représentation de couverture qui est tirée des très rigueurs du duc du Berry, conservée à Chantilly. C'est, je crois, le château d'Étampes. Alors, parce qu'il y a le château, il y a des champs, par conséquent, ça c'est la ressource économique. Et puis, il y a également des hommes et des femmes, dont certaines d'entre elles, plusieurs d'entre elles, sont montées en Amazon et accompagnées par des seigneurs, voilà. Donc, il n'y a pas cet enfermement que peut-être d'autres civilisations contemporaines ont imposé aux femmes. Nous sommes dans une société peut-être plus libre, et peut-être même que c'est plus sensible dans le nord de l'Europe que dans l'Europe latine. J'ai l'impression, mais il faudrait des recherches plus précises pour confirmer ou non cette impression. Et puis, dans les châteaux, ça, je me suis beaucoup intéressé à ça, à savoir que espace féminin, espace masculin. Et donc, on s'aperçoit que les femmes avaient leur propre quartier où elles vivaient, un petit peu à part, etc. Et qu'on peut, quand on a des inventaires, des choses comme ça, etc., repérer l'espace féminin dans les demeures des princesses ou même des femmes d'un certain rang, parce qu'en deçà, on a quand même au XIVe ou au XVe siècle. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une idée un petit peu plus positive de la condition féminine à ce niveau que je propose dans ce livre, à partir de cette approche un petit peu particulière, à savoir les châteaux et les montures.
Vous avez esquissé une géographie européenne parce que les codes, les valeurs dont vous nous parlez sont assez largement répandues dans l'Occident chrétien. Quelles sont les différences dans la façon de considérer la noblesse d'un pays à l'autre ? Est-ce qu'il y a des spécificités de la noblesse française ?
Alors donc, j'aurais aimé poursuivre mon étude, mais j'ai pas voulu le faire parce que ça demande peut-être des recherches trop importantes. Et donc l'idéal, c'était de comparer la noblesse du Royaume de France à la noblesse en Allemagne, à la noblesse en Italie, à la noblesse en Espagne, etc. Donc c'est pas impossible, mais enfin je ne l'ai pas fait et je me suis concentré sur la comparaison entre la noblesse française d'une part, et la nobilité et gentry anglaise d'autre part. À savoir que la noblesse française se prétend unie, alors qu'en Angleterre, et de plus en plus à mesure qu'on avance dans la fin du Moyen-Âge, il y a d'une part la Chambre des Lords et d'autre part la Chambre des communes. Alors les Lords, eh bien, ce sont des très grands seigneurs, des princes, etc. Bon, le comte de Wessex, Sussex, la poule, etc. Et puis des prélats. C'est la nobilité. C'est la nobilité qui est une catégorie très restreinte, qui est très contrôlée par le roi et qui normalement est héréditaire. Vraiment tout à fait strictement héréditaire. Et puis la chambre dite des communes réunit d'une part les représentants des villes, Londres, etc., etc., et d'autre part, la chevalerie et la gentry. Donc, dans une même chambre, il y a des bourgeois et des chevaliers. Alors qu'en France, il y a l'équivalent du Parlement d'Angleterre, qui se réunit très souvent avec une tradition et tout, avec ces deux chambres que je viens d'énumérer. En France, l'équivalent, ce sont les États, États provinciaux, États généraux, mais ces États marquent, sont tripartites. Il y a la noblesse, il y a les seigneurs, il y a le clergé, il y a le tiers-État. Si bien que les seigneurs, c'est-à-dire la classe chevaleresque, sont séparés du tiers-État. Donc il me semble, si vous voulez, que ça fait une différence fondamentale dans la représentation que les Anglais peuvent avoir de leur... de leurs élites. Bon, c'est un petit peu différent. Donc là, il y a une différence. Mais je crois aussi qu'il y a quand même des phénomènes, disons, parallèles, et en particulier l'importance des liens personnels. La société de la fin du Moyen-Âge, peut-être même la société d'Ancien Régime, mais en tout cas, c'est très visible pour le XIVe et XVe siècle, c'est l'existence de liens personnels. Les liens personnels qui, si on le regarde bien, existent aussi bien en France qu'en Angleterre. Alors en Angleterre, ça a formé tout un débat autour de la notion d'endenture. Endenture, c'est un acte diplomatique par lequel, disons, un personnage se lie à un autre personnage. Alors, ces endentures sont assez rares en France, mais j'en ai repéré quelques-unes. Mais de toute façon, indépendamment de l'existence de cette diplomatique, on peut dire que l'atmosphère est la même. Autrement dit, un seigneur, il a ses dépendants, ses fidèles, ses vassaux, etc. Et c'est la même chose en Angleterre qu'en France. Alors, en Angleterre, le contrat contractuel est plus marqué qu'en France, et du même coup, si vous voulez, le rite féodo-vassalique, c'est-à-dire la vassalité, la prestation d'hommage, etc., existe encore en Angleterre, mais devient vraiment très formel, alors qu'il me semble que ce rite de l'hommage est, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et peut-être même au-delà, assez vivant, assez opérationnel en France. Donc ça fait quand même là une différence. Donc il y a, et puis d'autre part, le système fiscal anglais est très différent et cette notion de dérogance est beaucoup moins marquée qu'en France. Et par conséquent, si vous voulez, la gentry anglaise, puisqu'il faut employer ce taux, est plus ouverte sans doute que la noblesse française. Donc ça fait quand même une classe est plus en phase peut-être avec la vie économique en Angleterre qu'en France. L'idée aussi est que la gentry, la nobilité aussi, mais la gentry anglaise s'occupe de très près de leurs biens fonciers, etc., le manoir et tout, alors que la tendance en France est plutôt une certaine distance entre la mise en valeur des terres et puis les possesseurs de ces terres. On se contente d'avoir des revenus rentiers du sol, si vous voulez. On est peut-être moins rentiers du sol en Angleterre qu'en France. Donc ça fait quand même différentes différences atmosphériques. Mais on est quand même dans le même climat. Hein. Si vous regardez un petit peu, du reste, il y a des intermariages. Au moment de la guerre de Cent Ans, eh bien, la noblesse anglaise, victorieuse, a obtenu quantité de fiefs, notamment en Normandie, parce que les nobles avaient rallié le camp adverse, etc. Donc il y a eu confiscation et le régent de France pour le roi d'Angleterre distribuait ses nobles, ses fiefs, assez généreusement, assez fidèles. Donc il n'y avait pas de problème. Hein. Il y a eu quand même des mariages et tout. Donc l'atmosphère est la même, mais avec quand même des nuances.
Nous sommes dans une période de mutation. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de guerres avec l'Angleterre. Et puis arriveront les guerres d'Italie.
Il y a eu, et puis entre les deux, il y a les guerres de Bourgogne, très important. Et les guerres de Bretagne. Non, ça n'arrête pas. Donc il y a la guerre de Cent Ans, qui est quand même un élément majeur, massif, même si aujourd'hui on essaie de remettre en cause l'expression « guerre de Cent Ans ». Je crois que ça existe. Et je pense même que les contemporains le savaient. Bon. Et puis ensuite, il y a eu la guerre de Bourgogne. Hein, on pense toujours à Louis XI, Charles le Téméraire. Hein, ça n'a pas été rien du tout. Et puis ensuite, la guerre de Bretagne. La guerre de Bretagne, parce que l'acquisition de la Bretagne, le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France ne s'est pas fait toute seule. Et puis ensuite, il y a les guerres d'Italie. Donc, et tout cela, on voit les nobles au premier rang de cette succession de conflits.
Et il y a aussi des difficultés économiques, vous en avez parlé. Nous sommes aussi dans un monde où les villes ont pris de plus en plus d'importance, où les bourgeois s'affirment également. Comment les nobles s'adaptent-ils à ce nouveau monde ?
Eh bien, plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Disons qu'il y a des hauts, il y a des bas et tout, finalement. Et je pense que le propre des nobles aussi, c'est comme un moment, c'est difficile de généraliser, mais une capacité d'adaptation et de résilience. Voilà. Donc, il faut s'adapter à la situation et essayer de rebondir autant que faire se peut. Donc, il y a quand même ça, hein. Et en particulier des politiques matrimoniales excessivement attentives, de façon à ne pas disperser le patrimoine, de façon à ce que les enfants se marient bien, etc. Donc ça, c'est une affaire entendue. Et puis, un autre élément très important, c'est le fait qu'il y a cette fiscalité d'État, hein, qui sert à financer les guerres, mais qui également sert à distribuer des pensions. Et donc, les pensions sont majoritairement attribuées par les rois à des nobles. Donc, c'est un moyen. Hein, donc, et un champion dans ce domaine-là, c'est Louis XI. Nous avons une liste en particulier de 1479 qui a été éditée, scrutée, etc., qui énumère toutes les pensions qu'à cette époque-là, Louis XI avait distribué et majoritairement à des nobles et même à quelques femmes nobles, etc. On se demande pourquoi est-ce qu'elles sont là, mais elles sont là. Donc, si vous voulez, il y a les pensions qui sont un moyen d'améliorer les revenus des nobles, plus les offices, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'office, de bailli, etc., etc., sont réservés pratiquement à des nobles. Ça fait quand même des gages. Il y a des obligations, mais il y a des gages. Par conséquent, la croissance de l'État, qui est l'un dans l'autre, un fait d'évidence, entre 1300 et 1500, a profité assez largement aux nobles. Surtout en France, parce que en Allemagne, le paysage serait différent et volontiers on oppose les princes et la noblesse ordinaire. Une sorte de tension entre les princes et le roi d'un côté et de l'autre la noblesse ordinaire. Bon, en France, on peut dire que la noblesse, pour son malheur, pour son bonheur, etc., s'est associée à la royauté, si vous voulez, ou à l'État en majesté, pour survivre. Et par conséquent, il y a somme toute trois moyens d'envisager la noblesse, me semble-t-il. Le noble comme seigneur rural, ça c'est très très important, parce que c'est du quotidien. Le noble à la guerre, on en a parlé, et puis le noble à la cour. Or, il y a eu des hauts et des bas, selon les circonstances, mais en gros, les cours ont eu tendance à se développer entre 1300 et 1500. Alors, la cour de Bourgogne, c'est un exemple magnifique, etc. Mais enfin, il n'est pas unique. Et il y avait vraiment une cour à l'époque de Charles VI, même si Charles VI était fou, même plusieurs, etc. Et donc, tout cela, toutes ces cours étaient peuplées de nobles avec des rivalités, avec des complots, tout ce que vous voulez. Mais en gros, la noblesse est hantée sur l'arbre de la monarchie.
Cette histoire va se poursuivre durant l'âge classique et ce serait peut-être vos mots de conclusion sur peut-être la continuité à la fois biologique et idéologique de la noblesse de la fin du Moyen-Âge à la noblesse de l'âge classique.
Je le crois aussi, je le crois profondément. Effectivement, il y a un problème, disons, comme dirait Pierre Bourdieu, la reproduction, mais disons la transmission biologique et la transmission des valeurs auxquelles les nobles sont extrêmement attachés, je crois même encore aujourd'hui. Hein, ce qui peut survivre de la noblesse, et disons, je renvoie ici aux travaux d'Éric Mancion-Rigaud, etc., très attaché à ce problème de transmission, d'éducation, etc. Et donc, mon idée, c'est que cette noblesse entre 1300 et 1500, il faut l'examiner sur la longue durée. C'est une étape dans cette longue histoire de la noblesse qui s'arrête en principe à 1789 ou 1790. On peut en discuter, etc. Et bien des traits qui sont propres, disons, à l'époque de Louis XIV, se retrouvent déjà, et en particulier le service du roi, se retrouvent déjà au XIVe et XVe siècle.
Eh bien, un grand merci, Philippe Contamine, de nous avoir raconté tous ces personnages qui sont présents dans votre livre. Je rappelle son titre, « Noble et noblesse en France, 1300-1500 », et c'est aux éditions du CNRS, un livre qui rassemble de nombreux articles, par exemple autour du château, autour du cheval, autour de la place des femmes ou de la seigneurie. Merci de votre venue et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.